أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Continuons toujours le chapitre des gens particuliers au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-Hassan wal-Hussein Sayyida Shabab Ahli Jannah. Al-Hassan wal-Hussein Sayyida Shabab Ahli Jannah. Les maîtres des jeunes du paradis sont Al-Hassan wal-Hussein. Même si on sait que les gens, toute personne qui sera au paradis, elle aura 33 ans, dans tous les cas, on sera tous jeunes. Mais les meilleurs parmi les jeunes, ça serait Al-Hassan wal-Hussein. Ridwanullahi alayhima min Ali al-Bayt, les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il discutait avec une vieille dame, il voulait un peu discuter avec elle, rigoler avec elle, et il lui dit, dans tous les cas, aucune vieille ne rentre au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam discute avec la vieille, il lui dit, dans tous les cas, aucune vieille ne rentre au paradis. Elle a pris au premier degré, elle croyait que ça y est, puisqu'on est. Elle commence à pleurer. Elle lui a dit, mais tu vas au paradis, ça c'est la très bonne nouvelle, mais tu auras 33 ans. Donc c'est vrai qu'aucune vieille ne rentre au paradis, aucun vieux n'ira au paradis. Toute personne âgée qui sera au paradis, elle aura 33 ans, Inch'Allah. Donc ça c'est la très bonne nouvelle, on sera en pleine jeunesse. 33 ans, c'est la meilleure période. Donc, Nisa'u Ahli Jannah, Sayyida, les maîtres des femmes du paradis cette fois-ci. Les jeunes du paradis, c'est Al-Hassan ou Al-Hussein. Al-Hassan ou Al-Hussein, si on voit, c'est d'abord les deux petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués directement. Quand ils étaient petits, bien sûr, il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient encore petits. Mais c'est des petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est des gens dans la piété et dans la droiture, c'était parmi les meilleurs. Ils ont suivi vraiment les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan ou Al-Hussein. C'était des gens qui, avec un très très bon comportement, qui étaient des croyants, des vrais croyants, des awliya, c'est-à-dire des gens qui ont un lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hassan ou Al-Hussein. Si on lit leur vie, c'est des gens qui ont donné énormément fi sabilillah. Et avec leur père, bien sûr, Ali, et leur maman, Fatima. من أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين نساء أهل الجنة الله سبحانه وتعالى parle de certaines femmes au paradis وأفضلهن les meilleures femmes du paradis sont خديجة رضي الله عنها وفاطمة ومريم وآسية les meilleures femmes au paradis sont خديجة La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a tout donné fi sabilillah. Elle a mis à disposition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toute sa richesse. Et elle était la meilleure épouse pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a soutenue dans les moments les plus difficiles. Elle était là. Et quand elle était morte, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette année de la mort de Khadija et de Abu Talib l'année de la tristesse. Tellement il l'aimait, sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, c'est un jour, Jibril alayhi wa sallam, il descend chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, dis à Khadija que Allah, subhanahu wa ta'ala, te salue. Vous imaginez, quel honneur que le maître du monde, Allah, subhanahu wa ta'ala, il te salue et il te dit, Bashir, donne-lui la bonne nouvelle que elle aura au paradis baytun min qasab la nasab fihi wa la sakhab. Tu auras au paradis un foyer au paradis min qasab, donc fait de perles sous forme de bambou, et la nasab fihi wa la sakhab. Il n'y aura aucun bruit dans ce lieu-là et aucune fatigue. Khadija, c'est la meilleure femme parmi les meilleures femmes du paradis. Wa Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa Maryam ibn Imran. Ya Maryam uqnuti lillahi wasjudi. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Maryam faisait partie faddalaha ala nisa'il alamin. Allah lui a donné un statut meilleur que Nisa al-Alamin. Donc les savants, ils disent Nisa al-Alamin, c'est-à-dire de son époque. Ce n'est pas de toutes les époques, mais de son époque à elle. Ou Asiya, c'est la femme de Pharaon. Et comme vous le savez, c'est elle qui a pris en charge Moussa alayhi salam depuis tout petit, et qui l'a élevé. Donc elle l'a élevé avec sa propre maman, la vraie maman de Moussa, parce qu'elle était sa nourrice. Et Moussa a grandi dans le palais, dans les mains de Asiya. Et Asiya, elle est devenue croyante. Et elle a été tuée par son mari, par Pharaon. Et donc quand Pharaon a voulu la tuer, elle n'a pas renié sa religion, elle a préféré la mort que de dire une parole contre sa religion et sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et après elle dit Imra'at Fir'aoun, il qalat, qu'est-ce qu'elle a dit Imra'at Fir'aoun? Il qalat Rabbi ibnili indaka baytan fil jannah. Regardez qu'est-ce qu'elle dit. Elle a pas dit Rabbi ibnili baytan fil jannati indak. Non, elle a dit Rabbi ibnili indaka baytan fil jannah. C'est-à-dire elle veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui construise une maison au paradis. Mais comment elle l'a prononcé? Comment elle a dit je veux être auprès de toi. D'abord, parce que la chose la plus importante, ce n'est pas d'avoir un foyer au paradis, c'est d'être auprès de toi, d'être dans ta proximité. Ibn Ali, indaka, chez toi, baytan fil jannah. Elle n'a pas dit Ibn Ali, construis-moi une maison au paradis chez toi. Elle a dit construis-moi chez toi. Hein, auprès de toi, une maison au paradis. Donc c'est parmi les femmes les plus nobles, radiyallahu anha, qui est considérée comme parmi les meilleures femmes de Ahlul Jannah, bien sûr. Mais vous avez Aïcha, radiyallahu anha, vous avez beaucoup, beaucoup de Hafsa, radiyallahu anha, les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Et on a des grandes figures de femmes musulmanes, mais le hadith il dit Afdalu nisa'i ahli al-jannati Khadija ibn Khuwaylid wa Fatima bint Muhammad wa Maryam ibn Imran wa Asiya bint Muzahim imra'at Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala donc dit إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Les savants ils sont pas d'accord. Est-ce que Maryam c'est la meilleure femme au monde? Parce que le verset il laisse entendre واصطفاك على نساء العالمين. Mais les savants disent على نساء العالمين de son époque. C'est-à-dire qu'elle était la meilleure femme de son époque. Mais pas la meilleure femme de toutes les époques. Donc, mais c'est un sujet de divergence. Certains savants disent non, puisqu'Allah nous dit Al-Alamin, c'est Al-Alamin, c'est-à-dire de toutes les époques. Voilà. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Khadija, on sait très bien ce qu'elle a fait, Khadija, radiallahu anha. Comme je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé, lui a transmis sa bonne nouvelle. Asiya, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وفاطمة رضي الله عنها, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qui lui ressemble beaucoup dans son comportement, et la seule de ses filles qui a vécu après lui, et elle a vécu que 6 mois. Elle a vécu 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle est morte. Alors que tous les enfants, toutes les filles, tous les garçons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont morts avant lui. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé. Il a perdu tous ses enfants, il a vu la mort, il a vécu la mort de tous ses enfants sallallahu alayhi wa sallam. Et la seule qui a vécu sa mort, c'est Fatima radiallahu anha. Maintenant, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a plusieurs compagnons à qui le prophète a promis le paradis, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, on a les 10 personnes, on l'appelle Al-Asharatul Mubasharun bil Jannah. Mais il n'y en a pas que 10. En réalité, il y en a beaucoup plus, parce que Bilal, par exemple, ne fait pas partie de cette liste. Mais nous, on sait que Bilal sera au paradis, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit dans un hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Bilal, qu'est-ce que tu fais de particulier, parce que j'ai entendu tes pas au paradis, j'ai entendu ta démarche, tu marchais au paradis et j'ai entendu le bruit de tes pas au paradis. C'est-à-dire le paradis est garanti pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais de particulier? Il dit, ya Rasulallah, moi, à chaque fois, quand je perds mes ablutions, je refais mes ablutions, toujours. C'est-à-dire que je suis toujours en état de pureté rituelle. À chaque fois, quand je perds mes ablutions, ben, je les fais. Donc ça c'est une belle chose. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à chaque fois quand je fais mes ablutions, je fais 2 rak'a. Vous voyez, donc il fait peut-être 4 ou 5, 2 rak'a, que 2 rak'a de l'wudu, spécial wudu. Parce que quand tu fais al-wudu, même si ce n'est pas une heure de prière, même si c'est recommandé de faire 2 rak'a de l'wudu. Sauf en dehors des périodes où la prière n'est pas recommandée. Il y a des périodes où la prière n'est pas recommandée. Quand le soleil se lève, au moment où le soleil se lève, là, tu ne peux pas prier. D'accord, il pas... Ou parfois, pour certains savants, les malikites, par exemple, quand tu fais le salat al-asr jusqu'à le maghrib, les prières sur le rogatoire ne sont pas recommandées. Mais le reste du temps, Bilal, à chaque fois, quand il faisait 2 rak'a, quand il faisait 6 ablutions, il fait 2 rak'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé, il a dit oui, donc c'est grâce à ça que j'ai entendu t'es pas au paradis. Bilal faisait beaucoup d'autres choses, mais c'est pour valoriser l'acte, pour valoriser ce que faisait Bilal radiallahu anhu. Donc l'Ashara, les 10 qui sont à qui le prophète a promis le paradis, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Bien sûr, Abu Bakr al-Siddiq, c'est le soutien numéro 1 au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a aussi mis à disposition son argent. Toute sa famille était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute sa famille. Il a marié sa fille au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était son, son beau-père, Abu Bakr était le beau-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a marié sa meilleure fille, Aïcha radiallahu anha, qui était pour nous, pour tous les musulmans, une enseignante. Elle nous a appris énormément de choses de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, vous connaissez tous Omar ibn Khattab, c'est celui grâce à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux musulmans un nouveau souffle. Les musulmans ont été écrasés, persécutés. Et quand Omar est devenu musulman, ben, à la Mecque, les musulmans n'osaient même pas, quand Omar est devenu musulman, n'osaient même pas faire les tours de la de Tawaf. Ils n'osaient même pas prier devant la Kaaba. Et depuis que Omar est devenu musulman, alhamdoulilah, il a donné un souffle aux musulmans. Maintenant, les musulmans peuvent prier parce que Omar était musulman. Ça a fait énormément de mal aux gens de la Mecque. Et Omar, c'est le deuxième calife. Son califat a duré pratiquement 12 ans. Et il a fait un travail extraordinaire pour propager l'islam dans le monde. Et on connaît tous la justice de Omar. Omar, regardez, qu'est-ce qu'il disait, radiallahu anhu. Parce que, à l'époque de Omar, l'islam est devenu une religion pratiquement. La moitié de la terre est devenue musulmane. Et l'Irak est devenu musulmane. Et Quds, Jérusalem et la Syrie sont devenus des pays musulmans. L'Égypte est devenue musulmane. Donc, tous ces. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Regardez à quel point il était juste. Il dit: Wallahi, law atharat baghlatun fil iraqi, la khashitu an yuhasibani Allahu alayha lima lam tu'abbid laha at-tariqa ya Omar. Regardez à quel point. Il dit: Wallah, par Allah, j'ai cette crainte que si un cheval ou une mule qui trébuche en Irak, à cause de la qualité du chemin, la qualité de la route, d'accord, la route n'est pas bien faite, il y a une mule qui trébuche et qui tombe, je crains qu'Allah, le jour du jugement dernier, me pose la question: pourquoi, ya Omar, t'as pas... Regardez, il est à Médine, il est à, je sais pas, 1000 kilomètres, il dit: je crains qu'Allah me demande des comptes concernant une mule qui trébuche en Irak. Regardez les gens qui avaient le souci, ils avaient la responsabilité, mais le souci de la responsabilité. Ce n'est pas quelqu'un qui prend une responsabilité et qui dit: il ne gère pas. Et donc, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, et regardez comment il a pris les clés de Jérusalem, radiallahu anhu. Parce que l'évêque qui gérait le Jérusalem, les portes de la ville, quand l'armée musulmane est arrivée, l'évêque il leur a dit: moi je ne donnerai la clé qu'à votre calife. Si le calife lui-même vient, je lui donne la clé de la ville et il n'y aura pas de guerre et on vous donne la clé de la ville. Mais j'exige la présence du calife. On a envoyé un émissaire à Omar et Omar vient parce qu'il veut que ce soit toi qui prends les clés de l'église. De la ville et de l'église aussi. Et Omar ibn Khattab donc a pris, donc il est venu quand même. Il est venu sur un chameau avec un serviteur, son serviteur. Il avait sur un seul chameau, avec son serviteur. Et qu'est-ce qu'il faisait avec son serviteur? Ben, il se mettait sur le chameau une heure par exemple, il descend une marche et son serviteur se mettait sur le chameau une heure. Donc, il alternait. C'est le calife, hein. C'est celui qui a le pouvoir sur toutes ces contrées. Et radiallahu anhu, donc il partageait le chemin. Et après, une heure, il laisse le chameau vide pour qu'il se repose un peu. Donc comme ça, ils avancent. Bien sûr, ils se reposent. Et quand Omar est arrivé à Jérusalem, les gens l'attendaient. Ah, maintenant il est arrivé. Mais à ce moment-là, ce n'était pas son tour. C'était le tour de son serviteur. Son serviteur était sur le chameau. Et Omar était en train de marcher, la boue, il marchait de. Et les gens, quand ils l'ont vu, le chrétien, là, l'évêque, quand il a vu, il a dit: C'est écrit dans nos livres que la personne qui prend la ville, c'est la description, c'est la description de l'Omar ibn Khattab qui marchait à pied et qui est venu prendre les clés de la ville. Et depuis ce jour-là, Jérusalem est musulmane. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez ce qu'on vit, Inch'Allah, qu'Allah donne à que cette ville redevienne, Inch'Allah, musulmane. Malgré que les musulmans sont là, mais la domination n'est pas aux musulmans dans cette ville. Et ses habits étaient déchirés, cousus, on voyait que c'est Omar ibn Khattab radiallahu anhu, ne donnait pas l'importance à cela parce que. Et quand l'évêque propose à Omar, il lui a dit à Omar, si tu veux prier, voilà, l'église elle est ouverte, tu peux prier. C'était lors de la prière des musulmans. Et Omar refuse, il dit non, je ne prie pas dans l'église. On lui a dit pourquoi ? Il dit c'est un lieu, mais je ne prie pas dans l'église parce que si jamais après moi les musulmans vont dire Omar a prié ici et donc on va transformer cette église en mosquée. Et donc je ne veux pas que cette église soit transformée en mosquée. Et jusqu'à aujourd'hui, cette église est une église. Vous voyez un peu le. Et après ils te disent ah, les musulmans ont imposé leur l'islam par la force et par. Qui. Regardez comment. Même jusqu'à. Les chrétiens existent à Jérusalem et en Palestine depuis avant l'islam. Ils existent jusqu'à aujourd'hui. Les Coptes existent en Égypte avant l'islam. Ils existent jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que les musulmans leur ont imposé la foi ? Il y en a certains qui ont voulu devenir musulmans, bienvenue à Lausanne. Mais d'autres, et beaucoup de chrétiens qui n'ont pas voulu devenir musulmans, est-ce qu'on leur a imposé ? Non. Et après, eh bien, critiquer la religion musulmane. La religion musulmane, c'est la religion la plus respectueuse des autres. Nous, on dit قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ تَأَكْرَهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الْغَيِّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. La voie rectiligne, la voie de la droiture, elle est là, elle est évidente. Celui qui veut la suivre, bismillah. Celui qui ne veut pas la suivre, il prend sa responsabilité devant Allah. Nous, on n'a rien à lui dire. Vous voyez à quel point l'islam. Par contre, quand les croisés sont venus à Jérusalem, ça il ne faut jamais oublier l'histoire. L'histoire c'était quelque chose de très important. Ils sont restés presque 2 siècles. 2 siècles à Jérusalem. Ben, ils n'ont laissé aucun musulman, aucun. Ils les ont exterminés. On dit que quand les croisés sont arrivés à Jérusalem, les rues de Jérusalem étaient pleines de sang. Parce qu'ils ont tué tous. Hommes, femmes, vieillards, enfants, ils ont tué tout le monde. Et les musulmans, quand Salah ad-Din Ayyubi a repris Jérusalem, hein, rahimahullah, un grand homme, Salah ad-Din, ben, il arrive dans la ville. Bien sûr, il a fait la guerre contre l'armée, bien sûr. Mais quand il prend les clés de la ville, elle était pleine de chrétiens. Salah ad-Din aura donné le choix. Si vous êtes ici, ben, vous pouvez rester ici. Et ceux qui veulent revenir, c'était majoritairement des gens, des Français, des Italiens, parce que c'était pas des vrais gens d'ici, hein, des croisés, c'est surtout les gens d'ici qui sont partis. Beaucoup de Français. Les croisés sont partis de Clermont-Ferrand. Hein. Donc, Salah ad-Din leur a dit, il n'a tué aucune personne, aucune. Et après, il a créé carrément un chemin sécurisé. Il dit, ceux qui veulent partir, on va les accompagner jusqu'au bateau pour qu'ils puissent partir. Et personne ne vous touche. Regardez comment aujourd'hui on présente l'islam comme une religion belliqueuse, comme une religion qui se propage par la force et par la violence. Mais quand on lit l'histoire, quand on voit, on comprend que c'était complètement le contraire, et l'islam s'est propagé par la conviction, par la raison. C'est comme ça que les gens sont devenus musulmans. Il n'y a aucun soldat musulman qui est parti en Indonésie, aucun. Aucun soldat musulman qui est parti en Malaisie. Alors que c'est les deux pays les plus peuplés de l'islam. Hein? Il n'y a que les commerçants musulmans, des commerçants yéménites, qui avaient un très bon comportement. Des vrais musulmans, des musulmans exemplaires. des commerçants. Ils sont arrivés en Indonésie, ils faisaient juste du commerce avec les Indonésiens. Mais quand les Indonésiens ont vu le comportement de ces gens-là, ils leur ont dit, mais vous venez d'où vous? De quelle planète? On n'a jamais vu des gens comme vous, dans leur comportement, dans leur manière de vendre et d'acheter. Mais on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Ça existe des gens comme ça? Alors, nous sommes des musulmans. Ben, toute l'Indonésie est devenue musulmane, à part certaines zones reculées. Mais l'Indonésie a des musulmans grâce aux commerçants. Il n'y a pas un seul soldat musulman qui est parti là-bas. Donc voilà, Omar al-Khattab radiallahu anhu, Uthman ibn Affan, Zunnourain. Uthman ibn Affan, c'est l'un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le troisième calife. Et Uthman ibn Affan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. Il lui a marié sa fille, une fille. Une de ses filles. Et quand elle est morte, Uthman est resté un certain temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a proposé sa deuxième fille. Et il s'est marié avec la deuxième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Uthman Udhu An-Nurayn. L'homme à deux lumières. L'homme qui a deux lumières. C'est quoi les deux lumières? C'est les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez à quel point le prophète l'aimait. Uthman, c'était un homme très 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 riche. Allah lui a donné une grande richesse. Mais il a mis toute cette richesse au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y avait la bataille de Tabouk, une grande bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens. Il y aura des données parce qu'il fallait préparer toute une armée. Et c'était une année pas forcément, il n'y avait pas beaucoup de pluie, c'était une année difficile. Et les gens ont commencé à donner fils à Vélida. Mais Uthman radiallahu anhu, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, moi je prends en charge 1000 cavaliers musulmans. Je prends en charge tout. Les épées, les chevaux, je prends en charge tout. Il a pris en charge 1000 cavaliers musulmans avec son argent. Il a financé avec son propre argent le quart de l'armée musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce jour-là, il a dit, ma dharra Uthman, ma fa'ala ba'da dhalik. Uthman, il peut faire ce qu'il a envie de faire là. C'est-à-dire que rien ne peut lui faire mal à Uthman après ce geste-là, qui a consacré, on va dire, la moitié de sa fortune. Il a tout donné, fils à Bilillah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les gens à donner. Regardez Uthman. Et Uthman, il n'a pas fait que ça. Il a fait énormément de choses. Et il était le puits de Bir. Donc il y avait un puits à Médine qui était la propriété d'un juif, d'un commerçant juif. Un puits à Médine. Et les gens, quand ils veulent prendre de l'eau, il les fait payer. Hein. Tu donnes de l'argent, je te donne de l'eau. Et le puits était au milieu de la ville, le plus proche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui peut acheter ce puits-là? Et là, le paradis garanti. Je lui garantis le paradis. Celui qui peut acheter ce puits et le mettre à la disposition de tout le monde. C'est-à-dire, les gens peuvent boire sans payer. Qui? Uthman, il a entendu la parole. Tout de suite, il est parti voir le commerçant. Et il commence à négocier. Je veux t'acheter, je veux... Mais pourtant, il a compris que Uthman était prêt à mettre le prix. Il augmente. Et Uthman lui dit, j'achète, il n'y a pas de souci. Il a dit, mais c'est la moitié. Avec ce prix-là, et je le gère un jour et tu le gères un jour. Donc déjà, le prix est élevé, mais lui dit, il t'appartient un jour. Il m'appartient un jour. Regardez comment le commerce, il t'appartient un jour, il m'appartient un jour. Et Uthman a accepté. Il a payé le prix. Maintenant, les gens, quand c'était le tour de Uthman, ils venaient tous abreuver et prendre de l'eau. Et quand c'était le lendemain, il n'y avait personne. L'homme, il vient voir Uthman, il lui dit, est-ce que tu peux me rajouter quelque chose? Et tu le prends. Et Uthman, il l'a pris. Et donc c'était sa garantie au paradis. Ce puits-là, c'était la garantie de Uthman au paradis. Subhanallah, tu vois. Donc Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Et c'est le troisième calife des musulmans après Abu Bakr, Omar, il y avait Uthman. Il y Et après Ali ibn Abi Talib, bien sûr, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyifullah al-Masloul, Sayyifullah al-Masloul, c'est l'épée de Dieu. Et un jour, pendant la bataille de Khaybar, donc il y a une bataille entre les musulmans et les non-musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a duré longtemps cette bataille, a duré quelques jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au bout de certains jours, il a dit demain, j'appellerai quelqu'un qui aime Allah, yuhibbu Allah wa rasoulahu, wa yuhibbuhu Allah wa rasoulahu. Donc, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, demain j'appelle un chef parmi vous. Quelqu'un qui aime Allah et son prophète, et que Allah et son prophète l'aiment. Omar al-Khattab, il dit le lendemain matin, je me suis mis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je mettais comme ça la tête pour que peut-être ça serait moi. Il voulait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle. Parce que, pourquoi ? Parce que la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est cet homme ? C'est un homme qui aime Allah et son prophète, et que Allah et son prophète l'aiment. Ça c'est encore plus important. Allah et son prophète aiment cet homme-là. Et Omar al-Khattab, il voulait que ça soit lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis debout, il a dit, il est où Ali ? Il est où Ali ? Amenez-moi Ali. Et Ali, ce jour-là, il avait très mal aux yeux, il ne pouvait même pas voir. Il avait une maladie qui a touché ses yeux, il n'arrivait même pas à voir. Donc ils l'ont pris par la main, ils l'ont amené jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam met un peu de salive dans sa main, il essuie sur les yeux de Ali. Et voilà Ali, comme j'avais absolument rien, pour le préparer à la grande bataille. Et Ali a conquis la ville de Khaybar ce jour-là. C'est juste pour vous dire, le prophète dit يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Donc, quelle promesse Allah a donnée à Ali. Et Ali, on sait quelles sont la science de Ali. Ali fait partie des plus grands savants musulmans, avec Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab, c'est un grand, grand savant. Jusqu'à aujourd'hui, on étudie les paroles de Omar ibn Khattab dans les livres de l'fiqh. C'était quelqu'un, quand il donne un avis, il donne un avis très, très argumenté, très poussé. Donc, parmi les personnes, on va juste les citer, Talha ibn Ubaidillah, Zubayr ibn al-Awwam. Zubayr ibn al-Awwam, c'est le mari de Asma bint Abi Bakr. D'accord. Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, c'est aussi un homme très riche. Mais il est arrivé à Médine sans rien. C'était un commerçant dans le sang. C'était un vrai commerçant. Quand il arrive à Médine, il n'avait rien. Il a tout laissé à la main. Il arrive à Médine, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il fait la fraternité entre les musulmans de la Mecque et les musulmans de Médine. Lui, il avait un frère, donc un Médinois. Et ce Médinois était riche. Il dit à Abdurrahman, le Hafi, Abdurrahman, viens. Moi, j'ai deux grands jardins. Je partage, je te donne un jardin et je garde un. Et j'ai deux femmes, deux épouses. Je divorce de l'une et tu te maries avec elle, parce qu'il n'était pas marié. Pour nous, c'est de la science-fiction. Les gens, j'ai deux épouses, je divorce avec une, comme ça tu peux te marier avec elle directement. Et bien sûr, il y a une période de viduité et tout ça, mais regardez à quel point les gens étaient s'aimaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi il a fait ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chacun est le frère de l'autre. Quand le prophète a dit, toi, ton frère, c'est lui. Toi, ton frère, c'est lui. Et donc, les gens disaient que puisque c'est mon frère, ben, je te partage avec mon frère tout. Alors, est-ce que Abdurrahman Mahouf, il a sauté sur l'occasion? Non. Il n'a pas sauté sur l'occasion. Il a dit, Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Qu'Allah bénisse pour toi ta famille, tes épouses et tes biens. Je suis pas un profiteur, moi. Mais montre-moi sourd. Montrez-moi où est le marché. Moi, j'ai un métier, j'ai quelque chose, je sais gérer. Et il commence de zéro. ben il devient l'homme le plus riche de Médine, le plus riche que Uthman ibn Affan, grâce à son métier, parce que c'est quelqu'un qui faisait du commerce à la Mecque, qui a toujours fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, hein, pour les jeunes, « Tis'atu a'shar rizq fit tijar » les neuf dixièmes de rizq, c'est le commerce. Donc, lancez-vous dans le commerce. Hein. Lancez-vous, le commerce, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Employé, salarié, c'est bien pour un certain temps, c'est... mais si vous pouvez lancer votre propre affaire, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, Abdurrahman ibn Auf, il s'est marié juste quelques mois après. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais qu'est-ce que tu as à donner à ton épouse? Il lui sort comme un œuf d'or, un œuf, on va dire 200 grammes, 300 grammes d'or, il lui a dit, voilà, voilà ce que je vais lui donner. Regardez là, la dot pour sa future femme, c'est pour voir rapidement, il est devenu quelqu'un de riche. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abdurrahman ibn Auf, c'est lui qui a pris en charge les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour chaque épouse, il a donné un salaire. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, elles ne peuvent pas se marier. Ça y est. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les appelle pour nous. Elles sont nos mères. Nos mères. Ummahat al-mu'minin. Donc, ummahat, tous les croyants. Est-ce qu'une mère peut se marier avec son fils? Donc, c'était interdit pour elle de se marier avec qui que ce soit. Mais donc, comment elles peuvent vivre? Bah, Abdurrahman ibn Auf, il a pris en charge. Tout de suite. Mais c'est un honneur pour lui, hein. C'est un honneur. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient. Mais lui, il a dit non, non, non. C'est pas discutable, c'est moi. Toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui restaient, ben, c'est Abdurrahman qui prend en charge tout. Tout ce dont elles avaient besoin, c'est Abdurrahman qui prend en charge. Regardez à quel. Et ni'mal mal salih lil abdi salih. Abdurrahman ibn Auf, c'était un homme pieux. Et l'argent ne l'a pas éloigné d'Allah. Parce que malheureusement, l'argent, quand on a trop d'argent, ben, on peut oublier, ça peut. Mais lui, non. Beaucoup d'argent, mais beaucoup de crainte, beaucoup de piété. Et il donnait fi sabilillah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ni'mal mal salih lil abd salih. Quelle bonne chose l'argent utile, salih, lil abd salih. Pour l'homme pieux. Parce que c'est un bien et tu peux l'utiliser dans le bien. Inna l'insana la yatra arra'ahu isterna. L'homme se rebelle quand il se voit dans la suffisance, dans la richesse. Ah, quand tu es riche, ben, tu t'esternis. Tatra, c'est-à-dire que tu dépasses les limites. Alors les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais dépassé les limites. Ils ont respecté les règles d'Allah. Ils étaient très riches. Très riches, certains parmi eux, très riches, mais Omar n'était pas riche du tout. Omar, radiallahu anhu, il a vécu une vie ordinaire, radiallahu anhu. Et par contre, certains compagnons, ils étaient vraiment très riches, comme Abdurrahman ibn Auf. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, il tirait très bien avec les flèches. Et c'est parmi les personnes qui ont resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était juste avec quelques-uns. Il le protégeait, et le prophète prenait les flèches, il donnait à Sa'd, vas-y Sa'd, tire. Et Sa'd il protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par ses tirs bien ciblés. Radiallahu anhu. Sa'id ibn Zayd fil Jannah, Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah fil Jannah. Abu Ubaida, c'est parmi les plus grands guerrier de l'islam. Abu Ubaida, c'est celui qui a conquis l'Irak. Donc, toutes ces personnes-là, les 10 que je viens de citer, Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaidillah, Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, et Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah. Ces personnes-là sont tous des Mécois. Et c'est toutes des personnes qui sont devenues musulmanes parmi les premières personnes. On va dire que ces 10 personnes, c'est la base
c'est la crème de la crème. D'accord ? C'est vraiment les premiers compagnons, et on peut même dire que c'est l'islam ou la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est basé essentiellement sur des hommes comme lui, comme eux. Omar ibn Khattab, on lui a dit, un jour il dit aux gens, tamannou, espérez des choses, qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie, hein? Et il était calife. Et chacun il dit, moi j'aimerais bien avoir beaucoup d'argent et donner fi sabilillah. L'autre il dit, j'aimerais avoir ça et faire. Chacun il dit, moi j'aimerais bien avoir 10 personnes comme Abu Ubaïd ibn al-Jarrah. Hein? J'aimerais avoir des hommes comme Abu Ubaïd ibn al-Jarrah, là, le dernier là. Hein? 10, juste 10. Je conquérir le monde entier avec 10 personnes comme ça. Et c'était vrai. Des hommes qui ont changé le monde. Et c'est pas étonnant. Pourquoi ? Parce que qui est leur maître ? Qui est leur professeur à ces gens-là ? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'éducation prophétique, c'est pas. Mais c'est des gens que le prophète a éduqués depuis le début. C'est la clique de Dar al-Arqam al-Arqam. C'est les premiers musulmans. C'est les jeunes que le prophète a éduqués depuis les premiers jours. Et qui ont porté la da'wah, qui ont porté l'islam. Et grâce à des gens comme ça. C'est pour ça que le prophète leur promet le paradis, parce qu'ils ont. Ils ont porté l'islam sur leurs épaules. Et chacun d'eux, quand on lit leur vie, elle est détaillée. On a des livres qui détaillent la vie de chacun de ces gens-là. Et on doit les connaître. Nous, on connaît les footballeurs, on connaît les artistes, les stars, on connaît tout sur eux, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà les gens qu'il faut connaître. Voilà. Les 10 personnes. Et donc, si on lit vraiment leur vie, on voit comment ils ont pu changer le cours de l'histoire. Comment ils ont fait, comment ils ont été éduqués, quelles sont leurs positions dans différentes situations. L'adoration, le comportement, c'est des gens qui sont pour nous, on appelle la ra'il al-awwal, hein, la première génération que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué pendant 23 ans, et qui ont donné tout, et qui ont porté l'islam sur leurs épaules, radiyallahu anhu. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a tous promis le paradis. Un jour, Abu Moussa al-Ash'ari était en train d'attendre. Il y avait un petit jardin qui s'appelait Bi'ru Aris. Bi'ru Aris, si vous êtes parti à Médine, à côté de Quba, il y a Bi'ru Aris. Elle n'est pas très très loin de Quba. C'était un puits où, donc, il y avait un petit endroit où on peut s'asseoir. Et le puits était ici, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, et Abu Moussa al-Ash'ari s'est assis quelque part pour surveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand il passe, Abu Moussa al-Ash'ari lui dit, attends. Abu Bakr al-Siddiq lui dit, il passe, Abu Bakr lui dit, attends. Je vais demander une autorisation parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envie d'être seul. Je vais lui demander l'autorisation, est-ce que tu peux venir, oui ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Moussa al-Ash'ari vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya Rasulallah, hada Abu Bakr, yasta'din. Voilà, Abu Bakr, il demande l'autorisation de venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, autorise-le et donne-lui la bonne nouvelle qu'il sera au paradis. Idhan lahu wa bashirhu bil jannah. Et idhan lahu wa bashirhu bil jannah, mashallah. Omar al-Khattab, il vient, le deuxième. Il lui dit la même chose. Et idhan lahu wa bashirhu bil jannah. Le deuxième. Uthman, il arrive. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, idhan lahu wa bashirhu bil jannah. Pareil. Ala balwa tusiba. Uthman ibn Affan, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avec une grande épreuve qui va le toucher. Et Uthman, il a vécu la grande épreuve de fitna. Il a été tué, Uthman radiyallahu anhu, alors qu'il lisait la parole d'Allah, Mus'haf, hein, par des gens qui ont fait quelque chose de ils ont tué le calife de l'islam pour eux, c'était pour venger ou pour protéger ou pour, ils croyaient qu'ils agissaient dans le bien, mais alors qu'ils ont fait un acte vraiment abominable de tuer le calife des musulmans, de tuer la personne à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis, la personne à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié ses deux filles. Imagine comment on peut devenir aussi ignorant. Testahiyin min al-malaik, un homme que les anges ont sont pudiques devant lui. Les anges sont pudiques devant Uthman, parce que c'était un homme pudique. Uthman radiallahu anhu. Regardez comment les gens, quand la compréhension de l'islam divise, quand tu comprends l'islam d'une mauvaise manière, tu peux faire des dégâts. Les gens qui ont tué Uthman, ben, ils croyaient qu'ils faisaient le bien. Vous imaginez? Ils croyaient que c'est fisabilillah, ils sont en train de faire le jihad. Et tu tues la personne qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est des musulmans. Malheureusement, oui, c'est des musulmans. Ah ouais, Mazdam al-Khawar Mabdesh. Donc c'est des gens qui voulaient agir parce que ils reprochaient des choses à Uthman. Enfin, on lui reprochait des choses. Il a fait. Uthman a toujours bien agi. Il a fait des choses. Hein. Par exemple, Uthman ibn Affan, juste pour vous montrer. Le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait trois marches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait sur la troisième marche. Abu Bakr, quand il est arrivé, ben, il s'y met sur la deuxième marche. Par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par respect. Omar ibn Khattab, par respect pour Abu Bakr, s'y met sur la première. Uthman ibn Affan, quand il est arrivé, il s'est remis sur la troisième. Il se remet. Vous imaginez, on lui a reproché cela. Uthman ibn Affan leur a dit, mais si on va descendre chacun, si chacun va descendre un peu, l'imam sera où aujourd'hui, il sera vraiment dans... Non, c'est moi j'ai le respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils lui ont reproché d'avoir écrit le Coran. Certains ont reproché à Uthman d'avoir regroupé le Coran dans un seul mushaf. Comment tu peux faire quelque chose que Abu Bakr n'a fait? Comment tu peux faire quelque chose que Omar n'a pas fait? Et comment tu peux faire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Alors, il dit, mais si je ne fais pas ça, le Coran il va partir. Il va. Heureusement que Uthman a fait ça et aujourd'hui, alhamdulillah, entre le Coran Karim écrit dans un seul mushaf, on lui reprochait des choses. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, il avait confiance en quelques personnes. Il se trouve que ces personnes, il les a mis comme responsable de ville, comme Muawiya, comme des personnes, il se trouve que ces personnes sont de sa famille. Il les connaissait bien, Uthman ibn Affan, il connaissait bien ces personnes, il connaissait bien leur capacité d'agir. Mais il les a mis comme émir sur telle ville et telle ville. On lui a reproché, ah, tu mets que les gens de ta famille, c'est pas que les gens de sa famille, hein. Loin de là. Il a mis beaucoup de... Mais parmi les grands oulettes, on va dire, les grands émirs, il y avait quelques personnes de sa famille. Pourquoi? Uthman, c'est un être humain, comme tout le monde. Mais il connaissait bien cette personne. Peut-être parmi les musulmans, il y avait des personnes plus compétentes, mais qu'Uthman ne connaissait pas bien, tout simplement. Et même nous, dans notre vie de tous les jours, parfois, quand on a une responsabilité, on aime bien rapprocher les gens qu'on connaît bien. Parce qu'on se sent à l'aise avec ces personnes-là, ils peuvent nous aider, on a confiance en eux, ils connaissent leur manière de faire. Ben, c'est un peu ça. Certes, certains savants disent oui, Uthman a un peu exagéré sur ce point-là, mais pour la majorité des savants musulmans, les historiens, ils disent non, Uthman n'a pas du tout mal agi, il a fait le nécessaire, il a placé des bonnes personnes aux bonnes places, et il n'a pas du tout fait du favorisme. Pas du tout. Donc, mais malgré tout, on lui reproche ça, on lui reproche ça, on lui reproche ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé une armée qu'on a préparée carrément en Égypte et on est venu pour prendre Médine. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient prêts pour défendre Uthman. Ali ibn Abi Talib, il demandait à Al-Hassan ou Al-Hussein de prendre les armes et d'aller protéger Uthman. Mais Uthman n'imaginait même pas une seule seconde que ces gens-là étaient capables, parce qu'ils avaient confiance, c'était des musulmans. Oui, ils reprochent, ils croyaient que c'était juste un simple mouvement de contestation et ça ne va pas. Ils n'ont jamais imaginé une seconde que ça allait arriver jusqu'à rentrer chez lui et le tuer au sein de son foyer. Allez, on va voir un mois. Combien de temps? 2 minutes. dont d'autres compagnons qui sont au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de Ja'far, Ja'far al-Tayyar. Ja'far, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far fait partie des gens qui sont partis de la Mecque en Abyssinie, al-Habasha. D'accord ? Parmi les premières familles. Si vous avez vu le film Risala, c'est lui qui parle au Négus. D'accord ? C'est lui qui était le porte-parole des musulmans devant le Négus. Il y avait 83 familles musulmanes qui sont parties de la Mecque à cause des perquisitions des musulmans, et ils sont partis en Abyssinie et ils sont restés là-bas pendant des années et des années. Et parmi eux, c'est Ja'far, le cousin direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était le représentant. Et grâce à Ja'far, le roi est devenu musulman. Le roi de l'Abyssinie s'appelle Al-Najashi. Il est devenu musulman. Il a caché sa foi. Et quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est venu l'informer. Et le prophète dit à ses compagnons, debout, on va faire la prière sur notre frère Al-Najashi, parce que personne ne peut faire la prière sur lui. Il est considéré comme un chrétien chez son peuple. Mais le prophète savait que c'était un musulman. Donc le prophète a fait la prière du mort sur Al-Najashi. Ja'far, il est revenu le jour de Fethu Khaybar. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit Khaybar. Le jour où Khaybar est devenu musulman. Ja'far arrive de l'Habasha directement pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète se lève pour l'accueillir. Il dit « La adri bi ayyihima afrah » أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر لا أدري بأيهما أفرح أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر et je ne sais pas quelle est la cause de mon contentement de mon bonheur. Est-ce que c'est l'arrivée de Ja'far ou la conquête de Khaybar? Ça rime, hein? Est-ce que c'est l'arrivée de Ja'far ou la conquête de Khaybar? Et les deux, c'était très très événements très très importants. Et Ja'far est mort deux ans après, lors de la bataille de Mu'ta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de lui le chef de cette armée-là. Il a été tué. Donc, on lui a coupé la main droite qui portait le drapeau. Donc, sa main droite tombe. Il prend le drapeau avec sa main gauche. On lui coupe sa main gauche. D'accord ? Il essaye de descendre pour prendre le drapeau avec ses jambes. Et on le tue, radiyallahu anhu. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ja'far est au paradis et Allah lui donnera des ailes. Tayyar, Ja'far al-Tayyar. On dit Ja'far al-Tayyar, c'est celui qui vole, radiyallahu anhu. Lui, on est certain qu'il est au paradis aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a promis le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, imana rushdana, wa maghfir dhunubana, wa sur uyubana, wa ja'alna min ibadika as-salihin. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله إن شاء الله. جزاك الله خير.